Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why,
this is why I'm hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power 19, le magazine des industries culturelles et du numérique au temps du coronavirus, émission régulière sur les conséquences économiques du fait de l'épidémie du Covid-19 sur la culture jusqu'à la fin du mois de juin. Au sommaire de cette émission Soft Power ce soir, on reviendra sur la bataille entre Donald Trump et les réseaux sociaux, sur l'initiative européenne Gaïa X qui concerne le cloud, on vous expliquera de quoi il s'agit, et l'arrivée à tout petit pas de la 5G en France. Tout ça avec Emmanuel Paquette, journaliste à L'Express. Avec lui et avec Zoé Sfez de France Culture, on fera également le point sur la loi audiovisuelle en débat, du moins peut-être, et puis sur le Festival de Cannes en ligne, oui, un festival numérique. Enfin, on évoquera les difficultés de la presse dans cette période de post-confinement. Politique culturelle encore, avec notre premier invité ce soir, Sébastien Delot, qui dirige le LAM, le musée d'art moderne de la métropole de Lille, et qui rouvre ce mardi. Occasion pour nous d'évoquer la réouverture des musées. Numérique ensuite, au sommaire de Soft Power ce soir. Numérique avec un invité spécial, Marc Diwan de Checker, une start-up américaine dirigé par des Français et qui est déjà valorisé 2,2 milliards de dollars, ce qu'on appelle une licorne. Enfin, le grand témoin ce soir nous permettra d'évoquer la question des hôtels à l'âge numérique et au temps du post-confinement. C'est le sujet principal de Soft Power ce soir. Des hôtels qui ont souffert durement pendant la crise sanitaire et qui rouvrent en se transformant. Maud Bailly du groupe Accor sera notre grand témoin ce soir. Le déconfinement à deux vitesses, c'est donc le thème transversal de cette émission. Ce soir, déconfinement des musées, des festivals et des hôtels. Cette émission est réalisée par Perret Legras avec en régie Stéphane Poitevin. Émission préparée par Nathan Marcel Millier avec pour les réseaux sociaux David Pata. Vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement. Podcast sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power spécial Covid jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme. C'est parti. On commence cette émission avec Emmanuel Paquette, journaliste à L'Express, chroniqueur de cette émission. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Trois sujets ce soir avec vous. D'abord, on revient, on l'avait évoqué déjà la semaine dernière, sur les relations complexes entre les réseaux sociaux américains et Donald Trump, et notamment avec de nouvelles accélérations sur ces sujets cette semaine, Emmanuel.
Oui, effectivement. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Il y a quelques jours déjà, Donald Trump a décidé, par un décret présidentiel, de mettre fin à la section 230 de la loi sur les communications. Donc, c'est une loi de 1996 qui permet aux plateformes, donc à l'époque c'était des sites internet, aujourd'hui les réseaux sociaux, de ne pas être responsables des éléments qui sont publiés directement sur les sites internet ou les réseaux sociaux. En tout cas, a priori, ils peuvent l'être a posteriori et retirer des contenus si ces contenus contreviennent à la loi ou à leurs conditions d'utilisation. Alors là, il y a eu deux tweets dans un premier temps de Donald Trump qui ont été plus ou moins modérés par Twitter. Le premier dans lequel Donald Trump estimait que le vote par correspondance n'était pas un vote correct et il pouvait y avoir des manipulations. Derrière, Twitter a réagi en disant que c'était une contre-vérité et en donnant des articles de presse qui contestaient l'affirmation du président. Et puis il y a eu un deuxième tweet du président qui disait en gros, quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Donc ça, c'était après la mort de George Floyd et des émeutes qu'il y a pu y avoir aux États-Unis. Et là, le réseau social a estimé que ce tweet faisait l'apologie de la violence, mais il l'a quand même laissé sur la plateforme.
Alors, on en est où, justement, après, une semaine plus tard?
Alors, une semaine plus tard, le feu a pris cette fois chez Facebook, parce que Facebook a laissé ses messages sur cette plateforme sans les modérer. Du coup, les salariés de Facebook, certains d'entre eux sont mis en grève en début de semaine, d'autres ont même démissionné de Facebook en disant que il n'était pas normal que Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, n'ait pas pris des décisions équivalentes à celles de Twitter, à tel point que le PDG a dû un, discuter avec les salariés en interne, deux, prendre la parole pour expliquer que ce n'était pas à lui d'être l'arbitre de la vérité, mais qu'en en contrepartie, il était prêt à faire quelques petites concessions, notamment à revoir toutes les conditions d'utilisation de Facebook, notamment sur dans sept domaines différents, et pouvoir les réviser avec avec l'ensemble des salariés, puisque il y avait quand même une fronde qui commençait à monter en interne. Et puis hier, il y a eu une troisième étape sur Twitter, cette fois encore. Donc Trump a publié un clip de campagne pour rendre hommage à George Floyd, et Twitter a enlevé ce clip de campagne, estimant que ils avaient été saisis par l'auteur de la musique accompagnant le clip et que l'administration Trump n'avait pas eu l'autorisation de l'auteur de pouvoir utiliser cette musique pour son clip de campagne.
On voit les tensions à quelques mois de la présidentielle américaine en début novembre se compliquent. Autre question, autre sujet plus technique, mais vous allez voir c'est passionnant et important pour ce qui concerne la souveraineté dont on parle souvent, la souveraineté française. Gaïa X, c'est un nom un peu de code, c'est une initiative européenne sur le cloud. Alors le cloud, c'est un mot qui est désormais d'ailleurs entré dans les dictionnaires, on peut l'employer, retenu par le Larousse et le petit Robert. Le cloud, c'est ce qui permet notamment à Netflix, à Spotify ou à OVH de fonctionner, c'est-à-dire que les données, les films, les musiques ne sont plus stockées dans votre téléphone ou votre ordinateur, mais dans des millions, je dis bien des millions, de serveurs à travers le monde. Alors Emmanuel, c'est quoi cette initiative Gaïa-X sur ce sujet du cloud ?
On pourrait dire que l'Europe est en train de se rebiffer, vis-à-vis des États-Unis et des géants américains, notamment Amazon, Google et Microsoft, qui détiennent à peu près 65% de part de marché mondial de l'informatique dans les nuages, donc du cloud computing. Et le reste est en train d'être capté par des acteurs chinois du type Alibaba, par exemple, et Tencent. Et donc, face à ça, les Européens ont voulu contre-attaquer en créant une sorte, toute proportion gardée, d'Airbus du cloud européen, en alliant un peu plus de 20 entreprises franco-allemandes qui existent déjà pour le coup. Donc ce sont des entreprises françaises et allemandes qui peuvent être référencées, qui vont être référencées sur un portail, et les entreprises françaises, allemandes et plus largement européennes pourront aller sur cette plateforme pour voir les offres de ces différents prestataires et de pouvoir y souscrire directement en ligne, avec plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est la réversibilité, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les données qui seront placées dans le cloud informatique d'un Français, par exemple, pourraient être transférées après chez un Allemand. Donc, une entreprise qui aurait souscrite chez une entreprise française ne se retrouve pas main liée avec cette entreprise française, mais peut partir du jour au lendemain. Donc ça semble être un intérêt important de cette plateforme Gaïa-X. Et puis la seconde, c'est de dire que cette plateforme et ses acteurs ne dépendront pas du Cloud Act à l'américaine. Alors le Cloud Act à l'américaine, ça fait peser en fait un risque judiciaire juridique à des sociétés européennes, puisque si elles mettent leurs informations plus ou moins sensibles dans des serveurs américains, donc chez Google, Apple ou Amazon, la justice américaine peut demander à ces entreprises d'accéder directement à ces éléments sans en informer même l'entreprise, et donc même mettre la main sur des données sensibles dans le cadre, par exemple, d'enquêtes liées à des contrats qui ont pu être passés avec des pays dans lequel les États-Unis sont en conflit, dans lequel il y a des embargos.
L'Iran ou Cuba, par exemple.
Ça peut être l'Iran, Cuba, exactement. Donc c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire que le droit américain s'impose à tous, même en dehors des frontières. Et donc ça peut faire peser des risques juridiques à des entreprises européennes. Donc ce que propose Gaïa-X, c'est d'enlever ce risque en disant simplement de stocker ces éléments sensibles sur le territoire européen et surtout par des entreprises européennes et pas américaines.
On verra le devenir de cette initiative européenne et comment le cloud souverain, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les clouds souverains français, allemands, européens, survivront dans ce monde très compétitif du cloud. Troisième sujet, Emmanuel, la 5G. La 5G arrivera-t-elle en France ? Drôle de guerre, on peut dire, entre les opérateurs télécoms. Orange veut accélérer, Bouygues veut ralentir. Les autorités de régulation, elles, s'interrogent. La 5G se déploie un peu partout en Europe, mais en France, Emmanuel, on tergiverse.
Oui, alors tout a commencé par une tribune de Martin Bouygues publiée dans le Figaro. Et Martin Bouygues disait qu'il y avait des craintes aujourd'hui au sein de la population sur les ondes, notamment sur les ondes de autour de la 5G. On a vu par exemple au Royaume-Uni des pylônes qui ont pris feu, qui ont été incendiés par des gens qui estiment qu'il y a un lien direct entre la 5G et le coronavirus, ce qui n'est pas vrai du tout. Enfin, il n'y a pas de preuves scientifiques d'un lien direct entre la 5G et le coronavirus. Mais ceci étant dit, il y a quand même des craintes sur les ondes autour de cette technologie. Donc Martin Bouygues dit, prenons le temps, au lieu de lancer la 5G cette année, pourquoi pas le lancer en 2021, prenons le temps de discuter, de débattre avec donc la société civile, les organisations non gouvernementales, pour montrer que cette 5G en fait ne pose pas de problème de santé à la population et n'est pas non plus énergivore et ne consomme pas plus d'énergie que d'autres technologies. Dans la foulée, SFR a embrayé en prenant d'autres arguments, en disant notamment que avant de se lancer dans la 5G, il fallait déjà que la 4G soit pour tout le monde, notamment dans les zones rurales, et qu'il fallait faire améliorer la couverture de la 4G un peu partout en France avant de lancer une nouvelle génération de téléphonie mobile. Alors on voit qu'en réalité l'explication elle est tout autre. En tout cas, il y a plusieurs types d'explications. La première, c'est que la 5G, il va y avoir des enchères, que ces enchères vont coûter extrêmement cher, puisque le prix de réserve, c'est-à-dire le prix de départ minimum, ça va rapporter 2,17 milliards d'euros à l'État. Donc il va falloir décaisser beaucoup d'argent pour les opérateurs, et puis après construire un réseau 5G. Donc ça demande beaucoup de ressources financières juste après la crise du coronavirus. Donc c'est un premier point d'ordre financier. Il y a un deuxième point, les opérateurs craignent que très rapidement l'État et les élus demande à ce que la 4G soit bien plus implantée en France partout et couvre la totalité de la France. Et ils se disent que ça pourrait arriver en octobre, novembre, juste après les enchères 5G. Et ils craignent qu'on leur demande de couvrir mieux en 4G, de lancer la 5G, de déployer de la fibre optique. Donc pour eux, ça fait beaucoup de dépenses. Et ils aimeraient en fait pouvoir échelonner ces dépenses dans un calendrier qui serait plus étalé dans le temps. Et puis enfin, dernier point, non des moindres, c'est qu'il y a toujours aujourd'hui une question concernant Huawei, donc l'équipementier télécom chinois. Donc les États-Unis soupçonnent cet équipementier de permettre à l'État chinois d'espionner les communications, voire de pouvoir demain saboter des industries qui seraient connectées, des industries dans le domaine de l'énergie, de la santé, des industries aussi dans le domaine du transport. Donc les États-Unis font pression pour que ses alliés n'utilisent pas l'équipementier chinois, donc notamment la France. La France, pour l'instant, elle a préféré temporiser en demandant à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information de donner l'autorisation aux différents opérateurs de déployer du Huawei en 5G. Or, il y a deux opérateurs en France aujourd'hui qui dépendent beaucoup de Huawei. C'est SFR d'un côté, Bouygues Télécom de l'autre. Et s'ils devaient utiliser d'autres équipementiers, à savoir Nokia par exemple, ou Ericsson, un équipementier suédois, il devrait désinstaller tout ce qui existe aujourd'hui en 3G et en 4G du côté de chez Huawei pour remplacer entièrement tout leur équipement en 5G, Ericsson ou Nokia. Donc ça va leur coûter assez cher, et du coup, SFR comme Bouygues Télécom ont estimé que ça leur coûterait entre 1 et 3 milliards d'euros d'enlever les antennes existantes pour les remplacer par du Nokia ou de l'Ericsson. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a pas répondu à leur demande. Donc tout ça fait que le lancement de la 5G aujourd'hui est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de sujets qui s'entrechoquent, de santé publique, des problèmes économiques, et puis des problèmes, on a vu, de sécurité nationale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains opérateurs veulent retarder son lancement. Le gouvernement, eux, tiennent à ce que la 5G soit lancée très rapidement. A priori, on devrait s'orienter vers des enchères au mois de septembre et une ouverture des premiers réseaux 5G au mois de décembre dans quelques grandes villes. Ça sera évidemment pas partout en France, puisque après ça sera étalé dans le temps. Mais on voit aujourd'hui donc des conflits entre SFR et Bouygues d'un côté, et Free et Orange de l'autre, qui eux veulent aller très vite. Puis le gouvernement, qui veut toujours mettre quand même la main, si possible, sur 2 milliards, un minimum, 2 milliards de rentrées d'argent. Donc c'est pas négligeable pour le gouvernement.
Bien, nous suivrons les aventures de cette bataille qui n'est pas précolombienne, mais bien nationale. Et on l'a vu, question de souveraineté et du coup internationale. Enfin, dernier sujet ce soir avec vous, Emmanuel Paquette, la loi audiovisuelle, tant voulue par notre ministre de la Culture, Franck Riester, qui a du plomb dans l'aile, si on peut dire. Elle était censée être débattue ce printemps au Parlement, mais elle est maintenant renvoyée s'inédit. Je rappelle que cette loi devrait fusionner Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde, c'est-à-dire France 24 et RFI. rebaptiser le CSA qui deviendrait l'ARCOM, auquel on ajouterait l'ADOPI. La régulation de la publicité à la télévision serait assouplie et on imposerait des obligations de financement aux services comme Netflix. Emmanuel Paquette, puis Zoé Sfès juste après, sur ce débat de la loi audiovisuelle.
Oui, alors il faut savoir effectivement que cette loi a été repoussée déjà à plusieurs reprises, déjà en raison des manifestations des Gilets jaunes, qui a fait que ce débat n'était plus prioritaire. Puis après, à la loi sur la réforme des retraites, qui a pris à peu près une grande partie des débats parlementaires. Donc ça a été repoussé moult fois, et puis maintenant, avec la crise du coronavirus, il y a de fortes chances que, et l'embouteillage législatif qu'on voit aujourd'hui au Parlement, il y a de fortes chances que cette loi soit... ne soit jamais adopté, soit poussé directement via des amendements ou directement sans passer par un débat au niveau des deux chambres. Dans cette loi, effectivement, quand vous me le notiez, il y a la création de cette holding France Média, qui regrouperait effectivement l'audiovisuel public français. Alors il faut savoir aujourd'hui que ça concerne quand même un budget d'argent public de 3,5 milliards d'euros par an et quasiment 20 000 salariés répartis dans les différentes entités du groupe. Et aujourd'hui, avant cette loi, on demandait déjà beaucoup d'économies à l'audiovisuel public, c'est-à-dire 190 millions d'euros d'économies d'ici 2022, portées essentiellement par le groupe France Télévisions avec 160 millions d'euros d'économies, Radio France 20 millions d'euros d'économies, et puis une dizaine de millions d'euros pour les autres entités du groupe, dont l'INA par exemple, RFI et d'autres. Donc ça va être compliqué aujourd'hui, je pense, pour l'État de dire on va faire des réductions massives au niveau des budgets des différentes entités et licencier du personnel, hein, puisqu'il est question aujourd'hui de licencier du personnel, quand le même gouvernement dit aux entreprises privées de ne pas licencier pour pas créer trop de chômeurs sur le marché français. Donc on voit qu'aujourd'hui que ce qui était vrai hier pour le gouvernement risque d'être moins vrai aujourd'hui et va positionner le gouvernement dans un exercice extrêmement compliqué, d'autant que cette holding France Média était censée permettre aussi de faire des économies. Alors on appelle ça sur les fonctions support. Alors le terme est un peu disons pas très joli. Les fonctions support, c'est l'informatique, la finance, les ressources humaines, tout ce qui revêt l'administratif. Aujourd'hui, chaque entité du groupe, donc France Télévisions, Radio France, l'INA, France Média Monde, chaque entité aujourd'hui a son système informatique, ses finances, ses RH, et l'idée, c'était de faire des économies en les regroupant dans cette holding. Mais ça veut dire aussi donc pouvoir mettre des ressources en commune et probablement moins de monde pour travailler dans chacune des entités, puisqu'on n'aurait qu'un seul groupe au niveau de la holding qui gérerait l'ensemble des groupes audiovisuels de français. Donc on va voir dans les prochains mois si effectivement ce projet de loi a du plomb dans l'aile. Il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup d'éléments qui passent directement par ordonnance et d'autres qui soient abandonnés. Et ce qu'on suppose, c'est qu'aujourd'hui, la création de cette holding ne soit plus du tout prioritaire dans les objectifs du gouvernement.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, merci. Une loi donc qui va faire débat, et je donne maintenant un tout petit peu mon point de vue, que je crois, j'espère être indépendant du fait qu'on travaille et qu'on est ici à Radio France. Une loi qui me semble être une véritable usine à gaz. Elle va coûter cher, car le nouveau PDG voudra sa communication, ses avocats, ses conseillers, il voudra coordonner le juridique, l'international, les ressources humaines, etc. Et cela déclenchera inévitablement de nouvelles grèves. Il me semble, et j'ai peut-être tort sur ce point, mais il me semble que cette BBC Ici à la française est un slogan, une idée un peu techno, un projet qui gomme les singularités françaises et ne répond en rien aux préoccupations du terrain, en particulier des territoires. On peut très bien faire travailler ensemble des équipes comme France Télévisions, France TV Info l'a prouvé, mais vouloir marier à coup de hache France 3 et les stations locales de Radio France, par exemple, n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il aurait fallu faire, peut-être, à mon sens, c'est rapprocher, par exemple, France Inter ou France Info des stations France Bleu pour avoir une radio à la fois nationale et locale. Proche des territoires. Quant à supprimer France 4, la chaîne éducative qui a bien fonctionné durant la crise sanitaire, c'est évidemment, en termes de timing, un peu difficile et peu opportun. Alors qu'il faille réformer Radio France, c'est un fait. C'est même contre l'avis des syndicats et des producteurs que nous sommes. Oui, il faut changer et se moderniser. Mais à mon humble avis, pas comme ça. Par ailleurs, changer à nouveau le CSA, changer le régulateur, me paraît également une erreur politique majeure. Après la Haute Autorité, la CNCL, pourquoi à nouveau changer son nom, son périmètre et ses compétences, alors que le CSA a fait bon gré malgré ses preuves. Quant à marier de force cette grosse carpe avec la petite lapine Hadopi, c'est faire d'un régulateur un gendarme et lui attirer de fait beaucoup de nouveaux ennemis. Autre erreur à mon avis. Il n'a pas besoin de ça, le CSA, que d'avoir de nouveaux ennemis. Tout cela étant globalement un peu une sorte de non-sens politique à mes yeux. On invente une nouvelle usine à gaz, on rajoute une couche aux millefeuilles déjà très épais de l'audiovisuel public pour finalement ne rien changer. Alors sur le même sujet, pour avoir un troisième point de vue, Zoé Sez de France Culture nous a rejoint. Zoé, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir.
Même sujet avec vous, Zoé, pour commencer. La loi audiovisuelle, une bonne idée ou une nouvelle erreur politique ?
Alors là, il y a plusieurs questions. Sur le fond, vous avez déjà pas mal débattu de la question de la holding. Peut-être sur la question du timing, vous l'avez dit Frédéric, on est dans un moment très particulier où, me semble-t-il, le service public, et vous avez évoqué le cas très emblématique de France 4, a véritablement prouvé qu'il avait une nécessité d'exister. Ça a été le cas notamment avec France Culture et notamment dans tout le type de relais qu'ont proposé l'audiovisuel public sur la question de l'éducation. Donc ce serait véritablement un non-sens et même presque un faux pas politique de jouer cette question maintenant. Et par ailleurs, l'un des arguments majeurs au-delà des questions d'économie sur cette idée de créer une holding, ça aurait été justement de renforcer ce qu'on appelle la marque du service public. L'idée, c'était de se dire que, par exemple, en Angleterre ou en Grande-Bretagne, quand les gens ont besoin d'une information, ils ont le réflexe d'aller sur la BBC, alors qu'en France, ils seraient perdus, éparpillés entre les diverses offres du service public. Et là, de ce point de vue-là, il me semble aussi que la crise a joué un rôle qui montre bien que le service public a su dégager une forme de singularité. Ce qu'il est important de dire néanmoins, et Emmanuel Paquette l'a dit, c'est qu'il y a quelques points de cette réforme qui est probablement, comme toujours, beaucoup trop importante dans ses ambitions, qui font clairement l'unanimité et qui probablement, on le sait, si le texte ne peut pas passer en séance en juillet, eh bien passeront saucissonnés sous forme d'ordonnance. C'est la fameuse transposition de la directive ESMA. Vous savez, on en a souvent parlé dans Soft Power. Et Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs dans sa séance visio, où il a parlé aux artistes. Les plateformes étrangères vont pas échapper à l'effort national. La transposition de cette directive européenne, elle prévoit en fait que Netflix, Amazon Prime et maintenant Disney+, eh bien, participent à l'effort de guerre et en fait, en tout cas, se soumettent à ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Or là, on le sait, toutes ces plateformes sont sorties extrêmement renforcées du confinement, puisqu'il y a eu des abonnements massifs et puis il y a des habitudes littéralement qui se sont prises et qui se sont ancrées. On n'a absolument aucune certitude aujourd'hui que les gens retourneront dans les salles de cinéma. Et puis, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il y aura un vrai problème de financement du cinéma avec le CNC, puisque le système de l'avance sur recette repose sur la billetterie. Et là, on aura 3 mois de trous de billetterie. Et donc, clairement, Emmanuel Macron l'a dit, eh bien, les plateformes seront assujetties aux obligations de financement dès le 1er janvier 2021. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette mesure-là risque de passer par ordonnance ou, là encore, par loi d'urgence, en dehors d'une méga réforme comme celle qu'on connaissait. D'autres propositions pourraient passer aussi de cette manière-là. Ce serait, par exemple, les mesures comme la modernisation de la TNT, l'inclusion, vous l'avez évoqué, Frédéric, d'une troisième coupure pub dans les programmes ou surtout ce qu'on appelle la suppression des jours interdits pour le cinéma qui permettrait, en fait, de programmer des films à la télé vision tous les jours de la semaine, alors que c'est pas le cas aujourd'hui. Ça, ce sont des mesures qui font beaucoup, beaucoup enrager les exploitants de cinéma qui sont eux-mêmes fragiles. Donc là, si on était dans le cas où on passait ce type de mesures par ordonnance, ça ferait peut-être partie des points qui, quand même, feraient débat.
Alors, deuxième sujet ce soir, Zoé Sez, après la loi audiovisuelle dont on a parlé à trois. Hein. Restons maintenant autour de sujets de politique culturelle un peu plus étroite, si on peut dire strict. Le Festival de Cannes, dont on a déjà parlé tout récemment, le Festival de Cannes, suite et fin, on en parlait déjà, entre annulation et nouvelle expérimentation.
Eh bien oui, alors il y aura bien un festival de Cannes, ça Thierry Frémaux, le délégué général, n'a cessé de le répéter tout au long de ces semaines, un festival déconfiné, un festival pour les salles. Alors les mauvaises langues disent un festival fantôme, mais rappelez-vous, je vous en parlais la semaine dernière, Thierry Frémaux avait promis un label Cannes 2020. Chose promise, chose due, donc Thierry Frémaux a détaillé dans une conférence exceptionnelle mercredi dernier, eh bien ce fameux label Cannes, cette fameuse sélection. Alors pour le moment, pour cette occasion assez étrange, on a délaissé les catégories habituelles, donc compétition, un certain regard, hors compétition, séance spéciale, au profit de catégories en fait qui sont calibrées pour Eh bien, alors, ce que cette sélection doit faire, c'est-à-dire ramener les gens dans les salles de cinéma. On a donc une catégorie qui s'appelle les fidèles, une catégorie qui s'appelle les nouveaux venus, une catégorie premier film, etc. Alors, Thierry Frémaux était, il faut le dire, assez fier de d'annoncer que 2067 œuvres ont été soumises au comité de sélection cette année. C'est la première fois que la barre des 2000 films a été franchie. Il n'était, entre guillemets, que 1945 films à se proposer en 2015. Et alors, c'est un engouement qui constitue la preuve, eh bien, que le Festival de Cannes est tout à fait vivant. C'est ce que Thierry Frémaux n'a cessé de répéter. Autre élément d'orgueil, alors là, sur lequel Thierry Frémaux a beaucoup insisté, c'est le nombre de femmes dans cette sélection de 56 films. Alors, elles ont été moins nombreuses à soumettre leurs films, mais elles sont plus nombreuses dans la sélection. Elles sont 16 femmes sur 56 films sélectionnés contre 14 en 2019. Alors, il y a certaines mauvaises langues qui nous laissent sous-entendre que s'il y avait eu, entre guillemets, un vrai festival, peut-être qu'elles n'auraient pas été aussi nombreuses. Alors, il y a clairement des films qui suscitent des attentes, notamment le film de Daniel Arbide ou celui de Marie Cassis, Émission Char. On retrouve des grands classiques, Wes Anderson avec The French Dispatch, une part qui a été très très belle faite au cinéma français, parce que là encore, le but, ce n'est pas tellement de récompenser des films, mais surtout d'aller les montrer dans les salles et que le public y aille. Contrairement à son habitude, d'ailleurs, le festival a sélectionné 5 comédies. Ça, c'est quasiment historique, dont on peut légitimement douter, là encore, eh bien qu'elles auraient fait partie de la sélection en temps normal. Alors, c'était effectivement une belle sélection qui donne assez envie de retourner au cinéma, avec à la fois des nouveaux venus qui parfois sont pas si nouveaux. Il y a par exemple le film de Suzanne Lindon, qui est la fille de Sandrine Kiberlain et de Vincent Lindon, qui est une très jeune réalisatrice. On peut se poser la question de savoir si c'était forcément obligatoire.
17 ans, c'est ça, 17 ans.
Quelques, à peine plus que ça. Et il y avait vraiment surtout quelque chose de très impressionnant qui était une démonstration de soft power cannois. Oui, nous existons encore, nous sommes toujours, entre guillemets, les plus forts. L'indéboulonnable Thierry Frémaux, qui a multiplié les pics à l'encontre des séries, à l'encontre de Netflix, et qui, non sans perfidie, n'a pas arrêté de dire que les cinéastes, eh bien, avaient préféré voir leurs films figurer dans cette sélection sans compétition, plutôt que de concourir à un autre festival, lequel, eh bien, la Mostra de Venise. Parce que la Mostra de Venise, elle a cet immense avantage qu'elle se tiendra bien à Venise du 2 au 12 septembre. Et en fait, en creux, pendant toute cette conférence, c'est ça qu'on entend. C'est l'énorme rivalité entre Cannes et Venise. Cannes qui ne veut pas lâcher le morceau. Et Cannes qui explique d'ailleurs que la plupart des films labellisés pourront concourir à peu près tous les festivals qui viennent ensuite, c'est-à-dire Toronto, et puis alors ensuite tout cela jusqu'en 2021, sauf la Mostra. Nous sommes en discussion, nous dit pudiquement Thierry Frémaux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quand même des films très attendus qui ont boudé cette espèce de faux Cannes. Benedetta de Paul Verhoeven, extrêmement attendu avec Virginie Efira, eh bien, il n'est pas là. Le genou d'Aed de Nadav Lapid, pareil. Ils n'ont pas voulu, faire partie de cette aventure de Cannes déconfinée. Et on sent, en fait, qu'il y a une forme de blessure d'orgueil, véritablement, chez Thierry Frémaux, qui est un peu mal placé, puisque c'est quand même le Covid qui a touché tout le monde. Il y avait cette image assez étrange de ces trois hommes blancs de plus d'une soixantaine d'années, qui à la fois se félicite d'avoir tenu le coup, et puis Pierre Lescure qui fêtera ses 75 ans et qui, trois jours avant, début juin, a été bien reconduit à la tête de la présidence du Festival de Cannes, à laquelle il est depuis 2014, il avait été réélu en 2017, et là il a encore 3 ans devant lui. Il l'a dit lui-même, presque comme s'il s'excusait de ce troisième mandat: j'entame un troisième mandat, mais je ne sais pas si je le ferai en entier, car j'ai une vieille idée dont j'ai parlé avec le CNC, et j'aimerais laisser ma place à une femme. Il y avait vraiment une sensation, eh bien, qu'on avait un festival pour rester en forme et pour rester digne.
Pour terminer, Zoé, c'est rapidement petite question pour finir sur l'actualité avec la presse. Splendeur et misère de la presse écrite, notamment partant de déconfinement.
Oui, eh bien, simplement une question qui se pose à l'issue de ce confinement. Est-ce que la presse écrite va plus mieux ou est-ce qu'elle va moins bien qu'avant le confinement? On avait des chiffres, en fait, de la presse magazine qui étaient plutôt très en forme au premier trimestre 2020. Mais ça s'arrêtait en mars. Une belle croissance pour des magazines comme Elle, pour L'Obs, pour Valeurs Actuelles. Ça, c'était jusqu'en mars. Et ensuite, il y a eu le confinement. Deux conséquences désastreuses. On en a quand même pas mal parlé. Enfin, les annonceurs qui se sont massivement retirés. Et puis les déboires. On en a souvent parlé avec vous, Frédéric, du premier distributeur de la presse française, Presstalis, qui a traversé une crise majeure avec une, un redressement judiciaire qui a été prononcé le 15 mai dernier par le tribunal de commerce de Paris. Résultat, il y avait beaucoup, beaucoup moins de presse dans les journaux, et ce, dès le début du confinement. Mais la bonne nouvelle, et en fait, il y en a eu, c'est que quand ils y étaient, eh bien, les journaux, a priori, on a peu de chiffres officiels, se sont plutôt très bien vendus. Donc on n'en a toujours pas, mais on sait qu'a priori, elle et Valeurs Actuelles ont fait en kiosque des ventes historiques. Autre très bonne nouvelle, quasiment tous les titres de presse ont enregistré des hausses historiques d'abonnements numériques. Et oui, avec des offres souvent avantageuses. La question, c'est de savoir si évidemment les gens vont rester abonnés en cette fin de déconfinement. Et cependant, eh bien, les collectifs de pigistes, les collectifs de journalistes sont sur le pied de guerre et tirent la sonnette d'alarme. Le collectif Ras la Plume dénonce dans les groupes Prisma Media, Reworld Media, Infopro Digital, des décisions annoncées formellement ou informellement, et bien de licenciement ou simplement, d'écartement de pigistes historiques. Dans une autre lettre ouverte, les journalistes de la presse professionnelle demandent à Franck Riester, Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire de rappeler à leurs employeurs que les pigistes ne sont pas une variable d'ajustement. Et puis, il y a carrément des titres qui ne reviendront pas en kiosque. Hein. C'est le cas du magazine Gradia, qui avait fait un numéro très optimiste au début du confinement. Et puis, le numéro suivant, le numéro 530, eh bien, n'existera toujours pas. On a appris que le magazine ne reviendrait pas en kiosque avant la fin de l'été, puis finalement, qu'il ne reviendrait jamais. Et c'est la vraie question. Il y a un vrai darwinisme qui s'est effectué avec les titres de presse, avec ce confinement, qui a à la fois renforcé le lien qu'entretiennent les Français avec la presse écrite, qui a aussi mis à l'honneur les qualités intrinsèques de certains journaux. Le Monde, par exemple, a très bien tiré son épingle du jeu. Et puis, effectivement, d'autres titres plus fragiles qui risquent de plonger assez vite. On a aussi, on peut noter quand même sur le fond, véritablement de vrais efforts et en même temps des carences mises en valeur par ce confinement, notamment l'absence parfois de bons services santé ou de bons services des sciences. Et maintenant, et probablement on terminera avec ça, Frédéric Martel, maintenant que le centre d'intérêt s'est plus ou moins déplacé ces dernières semaines du Covid vers la question des violences policières, on peut quand même assez noter que deux des documents les plus importants sortis cette semaine, eh bien, ils n'émanaient pas des acteurs traditionnels, encore moins des acteurs de la presse écrite.
Ils émanaient notamment de petits indépendants comme Street Press ou Arte Radio, qui ont révélé cette semaine que qu'un groupe Facebook dans lequel 8000 policiers échangeaient des messages privés, dont certains étaient extrêmement racistes, sexistes ou haineux. Street Press et Arte Radio ont révélé ces informations. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a saisi ce week-end la justice après ces révélations. C'est à lire sur Street Press.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Seconde, deuxième séquence ce soir dans Soft Power en direct sur France Culture. Après l'actualité, voici la culture. Et nous sommes avec Sébastien Delot, directeur du musée d'art moderne de Lille, qu'on appelle le LAM. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Frédéric.
Déconfinement en cours pour les musées en France, donc avec nous par téléphone le directeur du LAM. Vous dirigez un musée important qui réunit des œuvres d'art moderne, d'art contemporain, d'art brut aussi, de Picasso à Georges Braque, en passant par Modigliani, Miro, ou encore Paul Klee, à visiter donc près de Lille. Ma première question, un peu question candide, que deviennent toutes ces œuvres lorsque le musée est fermé? Que sont devenues les toiles depuis le confinement?
Alors, dans un musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, il n'y a pas que des œuvres picturales. Il y a bien sûr des toiles, mais il y a aussi des sculptures, il y a des installations, il y a de la vidéo. Donc véritablement, je dirais, tout un ensemble d'œuvres qui répondent aux engagements des artistes de leur temps. Donc, elles ont été mises tout simplement en veille, avec une veille qu'on a assurée pendant la période de confinement pour être sûr que les œuvres ne se détériorent pas et que nous puissions, en temps venu, réouvrir dans de bonnes conditions au public et de bichonner, comme on dit, ces œuvres, le moment venu pour que le public puisse les redécouvrir avec un œil de plaisir, jubilatoire et avec la même curiosité.
Pendant ce confinement, comment est-ce que vous avez pu ou essayer de garder le lien avec votre public, et en particulier peut-être via le numérique ?
Alors effectivement, pour bon nombre de musées, l'enjeu du numérique s'est posé comme une forme d'évidence. Ça a été l'occasion, je dirais, de mettre un véritable coup d'accélérateur sur ces supports, sur ces réseaux, sur ces enjeux. Le tournant numérique, en tout cas pour le LAM, avait déjà été pris puisque nous avons refait un site internet, qu'on est justement dans un rapport beaucoup plus engageant avec nos utilisateurs, le public. Mais ça a été l'occasion de pouvoir montrer le dynamisme, la créativité, notamment à travers les tutos qui ont été repérés par à la fois la radio, des magazines, et puis bien sûr bon nombre, je dirais, d'usagers qui se les sont appropriés, comme aussi les sections pépites, focus. Et on a fait véritablement des bons importants, une augmentation de pratiquement plus de 42 000 nouveaux utilisateurs de notre site internet, plus de 25% d'abonnés sur Instagram, et puis une hausse des tweets à plus de 36%.
Et ces initiatives vont perdurer au-delà de la crise ?
Alors, elles vont perdurer parce que je dirais que le tournant a été pris et les attentes sont là. Maintenant, évidemment, pour tous les musées, je dirais qu'il y a une règle commune qui est que le public puisse quand même visiter les musées et puisse avoir un rapport direct d'expérience avec les œuvres. Et ça, pour nous, nous y tenons beaucoup. Donc, je dirais que ça, c'était la...
Vous voulez pas rester fermé, vous voulez dire ?
Ah ben nous ouvrons mardi, donc on
voilà,
on attend
c'est
le public.
Ma question suivante.
On attend le public et justement, pour, je crois que ce qui est important aujourd'hui pour bon nombre de musées, c'est d'offrir les garanties et d'offrir, je dirais, des messages clairs pour rassurer le public pour venir. Alors c'est vrai que ça sera beaucoup plus agréable de venir au musée que d'aller faire ses courses en supermarché. Les règles sont beaucoup plus strictes, il y a le port du masque. Et puis à Lille, une initiative a été menée par l'agence d'attractivité qui s'appelle Hello Lille pour justement créer un partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille pour proposer des recommandations et avoir un label de qualité pour ces différents lieux culturels pour rassurer le public et montrer que nous sommes présents et que cette crise du Covid modifie, je dirais, nos usages, nos manières de fonctionner, que cela soit bien sûr en salle pour les expositions à découvrir ou redécouvrir comme William Kentridge qui n'a eu que 5 semaines d'activité avec plus de 21 000 visiteurs, un artiste extraordinaire et
sud-africain
que nous avons au LAM. Et puis, évidemment, aussi pour les ateliers que nous faisons tout au long de l'été et dès la semaine prochaine.
William Kentridge, donc un artiste sud-africain, une exposition que vous avez prolongée jusqu'au 13 décembre. Alors, vous réouvrez ce mardi 9 juin. Pendant le confinement, vous avez commencé une ouverture en deux vitesses, je dirais. D'abord, les espaces extérieurs et le parc. Et donc, ce mardi, les salles du musée. Est-ce que vous croyez que le public sera au rendez-vous et osera reprendre, si j'ose dire, le chemin physique de l'art et des œuvres?
Alors je crois que le désir de culture, vous l'avez vous-même énoncé, la presse a été fortement lue, les séries ou des plateformes numériques ont été prises d'assaut. Alors je crois que ce qui est important pour le public dans ces temps un peu troubles où de nombreux messages paradoxaux et contradictoires nous assaillent, c'est assez complexe de savoir démêler le vrai du faux. Néanmoins, je pense que progressivement le public va revenir, j'en suis intimement convaincu. Pour preuve, nos séries, notamment d'ateliers, commencent à vraiment, en termes de réservation, alors que nous les avons ouvertes la semaine dernière, les gens reviennent. Alors ça commence toujours par les fidèles, mais nous avons notamment mené une initiative aussi, parce que en qualité de service public, c'est important d'offrir, et donc ça me permet de le partager avec les auditeurs, notamment de la métropole lilloise. Nous faisons des ateliers tous les jours de la semaine, à l'exception du lundi, notamment pour les parents qui travaillent et qui dont essayent de gérer leur enfant dans cette époque où l'école n'est qu'à 2 jours ou 2 jours et demi par semaine, pour au mieux, et justement de proposer des ateliers par demi-journée ou journée complète, par groupe de 10, pour permettre justement un peu de soulager tous ces parents qui jonglent et qui se sont transformés en Shiva pendant cette période.
Après les Shiva, une question un peu plus politique pour terminer, qui fait écho à la chronique de Michel Guérin dans Le Monde ce week-end. Prochainement, dans les trains, tous les sièges vont être occupés, a annoncé le ministre des Transports récemment. Par contre, dans les cinémas, les théâtres et même d'une certaine manière dans les musées, le protocole sanitaire est jugé souvent extravagant par les directeurs de théâtre ou de musées. Un cinéma devra garder vide 1 siège sur 2 alors qu'un train pourra être plein. Qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi 2 poids, 2 mesures ? Vous pouvez utiliser votre joker, alors, si vous voulez pas.
Non, je n'utiliserai pas de joker. Je pense que le joker, en tout état de cause, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions et je m'en garderai bien. C'est vrai, je vous disais tout à l'heure que je pense que pour le public, beaucoup de messages paradoxaux, contradictoires nous sont diffusés. Il faut avancer pas à pas et je pense qu'il faut savoir redonner confiance. Et puis aussi, je pense que le public va avoir envie d'aller vers des aventures de qualité. Et je dirais que je suis intimement persuadé que l'exposition que nous avons de William Kentridge est une exposition extrêmement forte, à la fois politique, à la fois extrêmement humaine. C'est une œuvre totale, une exposition extraordinaire que l'on n'a pas l'occasion de voir souvent. Donc il faut profiter de venir chez nous pour venir la découvrir si vous n'avez pas encore eu cette occasion.
Merci Sébastien Delot, directeur du musée d'art moderne de Lille, Lille Métropole, le LAM, d'avoir été avec nous par téléphone en direct ce soir. Et puisqu'on parle de culture, et pour ceux qui ne l'auraient pas su ou entendu, je vous signale que France Culture a réalisé ce week-end un événement radiophonique un peu fou qui consistait à remettre en onde Harry Potter, en l'occurrence l'intégralité du tome 1 Harry Potter à l'école des sorciers. C'était juste avant cette émission, tout à l'heure, toute l'après-midi et hier aussi après-midi, lu par Bernard Giraudot, le comédien qu'on aimait tant et trop tôt disparu. Un beau moment de radio que l'on peut réécouter pendant plusieurs jours en famille ou en solo sur le site de France Culture. On vous met le lien sur Twitter et sur Instagram, hashtag soft power. (Musique) 18h51 en direct sur France Culture dans Soft Power. Après l'actualité des industries créatives, après la culture, on en vient au numérique. Et j'accueille maintenant l'un des directeurs de Checker, c'est une start-up américaine, Marc Diwan. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir Frédéric.
Donc Checker, c'est une start-up américaine, je le disais, mais qui est dirigée par trois Français, dont vous, Marc Diwan. Start-up qui connaît un succès fulgurant, décuplé d'ailleurs par le confinement. C'est un peu spécialisé comme sujet, mais vous allez voir, c'est intéressant, passionnant même, pour ce que ça raconte des changements de nos vies professionnelles à l'âge digital. Alors d'abord, c'est quoi Checker? Je résume en deux mots, c'est une licorne, c'est-à-dire une société à très forte croissance, évaluée à plus d'un milliard de dollars, ça c'est la définition d'une licorne. En l'occurrence, depuis sa nouvelle levée de fonds de 160 millions de dollars l'automne dernier, Checker a désormais une valorisation de 2,2 milliards de dollars. Elle a aujourd'hui 600 salariés. Elle est basée dans la Silicon Valley, près de San Francisco, aux États-Unis. Que fait Checker? Comme son nom l'indique, elle check, c'est-à-dire qu'elle vérifie les informations sur les salariés. En gros, Uber, par exemple, fait appel à Checker pour vérifier que les candidats chauffeurs ont bien leur permis de conduire et qu'ils n'ont pas été condamnés, par exemple, pour un accident de la route ou pour alcoolémie. Tout ça se fait en ligne, c'est ce qu'on appelle le background check de tout candidat à un emploi ou de quiconque, par exemple, qui veut louer un appartement. Alors, Marc Diwan de Checker, vous êtes, je crois, dans la Côte d'Azur, vous avez été confiné avant de pouvoir rentrer aux États-Unis. Est-ce que la digitalisation de la société, mais aussi le coronavirus, avec de moins en moins de contacts physiques, vous paraît-elle expliquer les raisons du succès de votre société et la montée en puissance d'un nouveau besoin de vérification des CV, des compétences des gens?
Alors en partie pour une raison très très simple, c'est que nous travaillons dans une industrie qui a un peu plus de 40 ans et Checker, ce que nous avons fait, c'est que nous avons numérisé l'ensemble des process et nous avons surtout réduit ce que je dirais les préjudices. Donc nous avons numérisé et donné la possibilité aux plateformes telles que Uber ou Lyft aux États-Unis de pouvoir recruter des centaines de milliers de chauffeurs et de pouvoir réduire le temps de la candidature au temps de l'acceptation de la candidature. Donc ça nous a aidé à nous développer en 2015. Donc on est la plateforme de Uber, la plateforme de l'ensemble des plateformes, que ce soit d'Uber ou de livraison de nourriture à domicile ou livraison de courses à domicile. La deuxième partie, comme je l'ai dit, le numérique permet aussi d'éviter les discriminations. Donc dans un sens où lorsque vous mettez une candidature en ligne, notre plateforme avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le machine learning permet d'avoir le moins de préjudice possible quand il s'agit de recruter une personne. Donc ça, c'est une partie de notre mission et qui est très importante aux États-Unis dans le cadre de la diversification de la force de travail.
Est-ce que, en quoi le succès de votre start-up est-il, comment dire, intrinsèquement américain et donc du coup pas immédiatement reproductible en France ?
Alors, tout simplement, nous sommes une agence de collecte d'informations des consommateurs. Donc le type d'informations que l'on collecte, ce sont des informations sur l'historique judiciaire, vérification des diplômes ou encore informations sur les permis de conduire et les infractions commises par les personnes. Donc c'est régi par l'État fédéral aux États-Unis. Ça existe depuis plus de 40 ans. En France, il n'y a pas de concept d'agence. Donc lorsque vous postulez pour un emploi, en général, on vous demande personnellement de récupérer votre casier judiciaire et de le donner à l'employeur. Aux États-Unis, tout employeur a le devoir de faire un background check pour tout employé et vérifier l'ensemble des informations. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes pour l'instant très centralisés et très focalisés sur le marché américain. Mais je pense qu'avec la transformation digitale des sociétés, il y aura besoin certainement en Europe et en France de ce type de service.
Alors c'est ce qui nous intéresse ce soir, puisque ça annonce aussi des transformations numériques, des transformations sociétales et peut-être de la société française à terme. Alors, il y a un modèle très spécifique de recrutement aux États-Unis. On utilise LinkedIn jusqu'aux outils de gestion de candidature, le background check dont vous faites, c'est votre métier, mais aussi les ressources humaines et l'onboarding, comme on dit, qui sont très spécifiques au modèle américain avec des centaines de sociétés qui font ça. Je pense à Workday, à Lever, Oracle, SAP, j'en cite d'autres parce que vous êtes notre invité ce soir, mais d'autres auraient pu l'être. Cet accroissement de la vérification de tous les CV désormais est aussi techniquement possible et rendu possible donc par des algorithmes qui vous permettent de faire des centaines de milliers de recherches en peu de temps. Rappelons par exemple que vous avez déjà fait plus de 50 millions de checks, ce qui évidemment ne se fait pas en quelques secondes.
Oui, tout à fait. Donc la numérisation des sociétés et des entreprises permet, sans potentiellement rencontrer une personne directement, faire un entretien uniquement par téléphone. Donc notre société et notre solution s'inscrit dans cette chaîne-là. Donc vous avez des outils de sourcing de candidats, vous avez des outils de gestion des candidats avec retour du feedback de l'ensemble des personnes qui ont conduit les entretiens. Et donc nous, lorsque les entretiens sont terminés, on récupère l'ensemble de ces informations-là, l'identité de la personne, et on fait l'ensemble du background check. Et ensuite, on donne un avis en disant « cette personne-là n'a rien, donc à vous de décider ». De l'embaucher ou de ne pas l'embaucher. Lorsque la personne est embauchée, vous avez des systèmes de gestion de ressources humaines. Donc, toute cette chaîne-là, avec la transformation digitale, avec notamment le Covid-19, aujourd'hui, nous aidons les entreprises à pouvoir continuer à recruter, même dans un contexte très difficile, sans nécessairement rencontrer des personnes ou de voir les personnes.
Si on fait le checking à la main, ça coûte cher et ça prend plusieurs semaines avec vous, donc ça se fait en quelques minutes et c'est la valeur ajoutée de cette start-up devenue une licorne, Checker. Alors vous êtes au service des employeurs, généralement on pourrait vous voir comme un vilain dans cette histoire, en tout cas d'un point de vue des droits de l'homme, des individus, des sociétés propriétaires d'appartements, ou vous l'avez dit de Uber pour lesquels vous travaillez, mais vous permettez aussi, là c'est le côté gentil de la start-up, vous permettez aussi aux individus d'obtenir leurs informations digitales sur leur propre CV, c'est-à-dire ceux qui voient leur candidature parfois systématiquement refusée en raison de leur CV, mais ils ne le savent pas forcément. Ils peuvent donc faire appel à vous et vous allez débloquer, c'est le mot que vous employez je crois, débloquer ces personnes, et vous l'avez fait pour 400 000 d'entre elles.
Tout à fait. Alors, il y a une injustice dans le monde du travail, notamment aux États-Unis, et notamment les personnes qui ont un historique, que ce soit judiciaire ou des problèmes au niveau du permis de conduire, il y a à peu près 85 millions d'Américains en âge de travailler qui ont un historique criminel aux États-Unis. Donc jusqu'avant Checker, il y a énormément d'injustice sur le fait que lorsque vous avez des personnes qui ont l'ensemble des informations, ces personnes-là ont tendance à ne pas vouloir embaucher des gens avec ce type d'historique. Avec notre algorithme, et le fait de ne pas avoir de personnes qui vraiment consultent ces informations-là, et c'est l'algorithme qui le fait, en fonction des critères que vous rentrez au niveau du type d'emploi que les sociétés cherchent à embaucher pour, eh bien nous, nous sommes capables d'aider les entreprises à essayer d'embaucher des gens avec potentiellement un historique judiciaire. Pour une raison simple, il y a énormément de lois aux États-Unis et c'est très difficile pour une personne de connaître toutes les lois dans tous les États. Nous, nous avons un algorithme, nous avons rentré l'ensemble de ces lois-là et on permet d'assister les recruteurs ou les employés, les employeurs qui recrutent, de pouvoir recruter des gens avec un historique en fonction des postes à pourvoir. Eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas embaucher quelqu'un qui a commis un fait mineur pour un poste donné ou même qui a un historique criminel sur un poste qui ne nécessite pas nécessairement qu'une personne soit complètement sans aucun historique particulier. Donc jusqu'à présent...
Oui, par exemple, si vous brûlez des feux rouges constamment, c'est évidemment difficile d'être chauffeur Uber. Par contre, vous pouvez louer un appartement. Enfin, donc le casier judiciaire peut ne pas être pertinent. En général, il faut qu'il soit très spécifique.
Exactement ça.
Alors, une question un peu technique et un peu à côté, mais il y a un type de check qui se fait beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs au mépris de la loi très souvent, y compris en France. Des sociétés qui sont en fort développement également, je pense à Brandwatch, je pense à KB Crawl, je pense à Maltego, qui offrent à leurs clients un autre système de vérification, plus sournois au fond, celui de la trace numérique. Ils visitent le web et vos réseaux sociaux et par exemple, en fonction des likes, des amis que vous suivez, des informations que vous postez, des articles que vous recommandez, tout ça sur plusieurs années de check et plusieurs comptes, et tout à fait légalement, ils arrivent à savoir, par exemple, tout sur vous, hein, si vous êtes marié, si vous êtes malade, si vous êtes gay, etc. C'est un type de checking que vous, vous ne faites pas.
Alors, tout simplement, pour une raison très simple, c'est que nous pensons que ce type d'empreinte, de récupérer l'ensemble de l'empreinte digitale des personnes, c'est d'abord une activité qui n'est pas réglementaire, et c'est ensuite une activité que l'on considère injuste vis-à-vis de la personne pour pouvoir prendre des décisions d'emploi, d'employer ou de ne pas employer une personne. Donc nous avons la possibilité de faire ça, mais nous ne souhaitons pas, nous avons un code d'éthique au niveau de l'entreprise où nous souhaitons mettre en place une réglementation pour pouvoir utiliser ces informations-là et surtout pouvoir donner accès à l'utilisateur ou à la personne l'ensemble des informations pour qu'elle décide de les mettre à disposition ou de ne pas les mettre à disposition. Donc, vous l'avez, comme vous l'avez très très bien dit, Internet, c'est une formidable révolution, mais lorsqu'il s'agit de la protection des données consommateurs ou des personnes, eh bien, il y a des solutions capables de retrouver l'ensemble de votre historique numérique et pouvoir monétiser cet historique numérique. Eh bien, nous, on ne souhaite pas le faire pour l'instant, dans la mesure où il n'y a pas encore de cadre juridique particulier régissant ce type d'activité.
Marc Diwan, une dernière question peut-être plus un peu extérieure à votre domaine de compétence, mais vous vivez dans la Silicon Valley, vous êtes français, c'est trois Français, Daniel, Jonathan et vous-même qui êtes les managers principaux de Checker, donc tous les trois Français qui ont investi aux États-Unis et finalement pas en France. Qu'est-ce qui fait, au-delà de votre spécificité juridique, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas forcément se développer en France et qu'on part dans la Silicon Valley pour le faire ?
Alors, on peut très bien le faire en France. D'abord, mon historique, moi j'ai à peu près 23 ans d'expérience internationale, donc j'ai travaillé en France, bien entendu, au Japon, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis. Et depuis 12 ans, je suis aux États-Unis, donc j'ai toujours travaillé dans le domaine de la technologie. Et c'est vrai que naturellement, lorsqu'on est dans la technologie, eh bien on est attiré par la Silicon Valley pour pouvoir entreprendre. Mais très sincèrement, la France a fait énormément d'efforts sur les dernières années. Nous avons de très très bons ingénieurs. Et il n'y a aucun frein à entreprendre en France. Je ne vois pas de différence. Il y a potentiellement des avantages d'un point de vue salaire, d'un point de vue cadre de vie, d'un point de vue aussi qualité des ingénieurs français. Donc très sincèrement, il y a quelques années, on pouvait se poser encore des questions. À aujourd'hui, le fossé est de moins en moins important en termes d'entrepreneuriat en France par rapport à la Silicon Valley.
Eh bien, bravo, merci. Bravo pour cette start-up que vous co-dirigez, valorisée à 2,2 milliards de dollars dans la Silicon Valley. Et bravo à ces trois Français expatriés qui en plus disent qu'on peut aussi investir en France. Merci d'avoir été Marc Diwan de Checker avec nous par téléphone. Dans un instant, on parle des hôtels qui sont en cours de déconfinement en direct sur France Culture, 19h04. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street.
I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a track. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey.
À l'instant, un extrait du nouveau single du rappeur canadien Drake, Tootsie Slide, magnifique morceau sorti pendant le confinement sous la forme d'une mixtape de 14 titres avant un album prévu pour cet été. Intéressant modèle d'ailleurs de lancement en deux temps. On verra si l'album confirme la qualité de ce titre posté sur une mixtape de 14 titres.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Le grand témoin ce soir est Maud Bailly, CTO, responsable, directrice du digital, directrice commerciale de la transformation du groupe Accor. Alors, il y a 18 000 hôtels en France et 160 000 personnes qui travaillent dans l'hôtellerie en France. Le sujet fait d'ailleurs la une du Monde ce week-end. Dans cet écosystème complexe, fait à la fois d'indépendants et de grandes entreprises, le groupe Accor est un géant. C'est le plus important des groupes européens de l'hôtellerie, avec plus de 5 000 hôtels dans 110 pays. Accor est le premier groupe donc européen du secteur. Il réunit des marques qui nous sont familières comme Ibis ou Formule 1 dans l'hôtellerie économique, Novotel ou Mercure dans le moyen de gamme, ou encore Sofitel, Fairmont ou les hôtels Pullman dans le haut de gamme. Par téléphone avec nous, Maud Bailly, vous êtes l'une des dirigeantes du groupe Accor. Vous vous occupez, je l'ai dit, du marketing, du commercial, du digital et de la transformation du groupe. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors vous étiez dans un secteur et un groupe en pleine forme économique et tout à coup, tonnerre, depuis le 17 mars, jour d'entrée dans le confinement, le secteur de l'hôtellerie s'est littéralement écroulé.
C'est exact. Nous avons vécu avec le Covid une crise d'une violence sans précédent. Il faut savoir que le secteur de l'hôtellerie n'est pas étranger au choc. La crise la plus grande que nous avions vécue dans le secteur était celle des subprimes en 2008. Et pour vous donner une idée, on avait alors enregistré une baisse de l'activité de 12%.
Et là, combien d'hôtels vous avez fermés, par exemple, pour le groupe Accor?
Là, avec le Covid, en avril, on se retrouve avec plus de 60% des hôtels fermés à l'échelle mondiale et une chute de l'activité sur le mois de mars à hauteur de 60%. Donc, on ne joue plus du tout dans la même cour. Et en conséquence, on décide de mettre en inactivité près de 75% de nos 300 000 collaborateurs et de basculer autant qu'on peut en télétravail.
Ça veut dire que
c'est un choc d'une violence inouïe.
Ça veut dire que les trois dimensions finalement de votre secteur, c'est qui le portait, sont affectées, ont été affectées en même temps. C'est-à-dire les professionnels, le tourisme, les loisirs et au fond l'international tout à la fois.
Exactement. Au fond, c'est comme si dans le plus mauvais des scénarios imaginables, tout s'accordait pour annihiler le cœur de notre activité. Les trois facteurs clés de l'hôtellerie étant mis à l'arrêt, à savoir le loisir, les gens ont peur et vivent en confinement, le voyage d'affaires et la libre circulation des personnes, puisque les frontières sont fermées. Et donc tout l'enjeu a été de dire comment est-ce qu'on se réinvente à un moment où le cœur même, la raison même de notre activité semble annihilée.
Alors avant d'en venir au déconfinement qui commence déjà et qui se poursuit dès demain d'ailleurs, un mot sur la politique sociale que vous avez mise en place durant le confinement, puisque les hôtels étaient vides. Qu'est-ce que vous avez fait de vos hôtels à ce moment-là?
Le grand paradoxe a été de se dire comment est-ce qu'on continue à garder une raison d'être au moment où tout semble dans d'autres secteurs mis à l'arrêt. Donc très vite, sous l'impulsion de Sébastien Bazin, notre PDG, nous avons décidé deux grandes mesures. Déjà, nous avons décidé de continuer à trouver une raison d'être pour nos hôtels qui était en cohérence avec notre ADN, à savoir l'accueil et le soin des autres. Donc, dès mars, nous avons décidé de mettre à disposition nos hôtels avec l'accord des propriétaires en faveur des personnels soignants et des populations vulnérables telles que les femmes victimes de violences conjugales ou encore toutes les personnes sans abri. En France, par exemple, Accor a mis en place une plateforme qui s'appelle CEDA, Coronavirus Emergency Desk Accor, et ce sont plus de déjà 100 000 nuitées qui ont été utilisées à ce jour sur la plateforme. Nous avons aussi décidé, en partenariat avec la PHP, de rejoindre le programme Covisan pour accueillir en fait les malades en France, mais aussi en Chine, en Espagne. Et puis, en interne, le conseil d'administration a décidé de renoncer à ses dividendes et d'allouer 25% du montant, à savoir 70 millions d'euros, dans un fonds qui vise à aider et à accompagner tous les collaborateurs, mais aussi les propriétaires et les partenaires qui ont souffert et qui souffrent encore de cette crise sans précédent.
Alors on vous
que ce soit pour des raisons de non prise en charge médicale ou des raisons de difficultés financières.
Alors on vous a entendu dire avec l'accord des propriétaires, il faut peut-être rappeler pour bien comprendre le modèle actuel d'accord, que c'est un modèle de franchise ou de management comme on dit, vous ne possédez plus les hôtels, le modèle business a changé, c'est ce qu'on appelle du asset light, sans propriété des murs, tout a été revendu à une structure intermédiaire, Accor Invest, qui parfois a elle-même revendu les hôtels, et en même temps ça vous permet de prendre des prises de participation, par exemple sur Mama Shelter ou 25 Hours Hotel, des hôtels de ce type. C'est ça votre modèle ?
Exactement. Nous avons opéré un changement de modèle vers un modèle qu'on dit asset light, c'est-à-dire que nous ne sommes plus propriétaires de nos murs, mais nous prestons, en fait, nous sommes opérateurs des hôtels, que ce soit sur un modèle de franchise ou d'hôtel managé. Et au fond, cette transformation qui a été achevée en mars de cette année a aussi
été
salvatrice. Au bon moment, mais absolument, parce qu'elle nous a permis d'avoir des liquidités suffisantes pour tenir le choc de cette crise. Et en effet, ça nous a permis par ailleurs, avant la crise, d'investir dans une très grande stratégie de diversification. Nous sommes passés de 13 à 40 marques, vous les rappeliez, avec des segments lifestyle, des segments du luxe, et puis dans des diversifications avec d'autres activités telles que le coworking, la restauration, le divertissement, parce que nous pensons que l'hôtellerie est un environnement d'écosystème.
Vous avez dit, ça nous a permis d'avoir des ressources suffisantes. Je vois que la police vient déjà vous chercher chez vous, apparemment. C'est la mise en examen dans la nuit, peut-être.
Pas du tout.
Plus sérieusement, vous avez évoqué le fait que vous arriviez à tenir grâce à ces liquidités. Est-ce le cas aussi pour les hôtels, justement, qui sont indépendants et qui sont rattachés au réseau Accor?
Je pense que le choc du Covid est sans précédent et que porter le risque opérationnel, porter le risque de l'entretien des murs au moment du Covid où tout s'arrête dans l'hôtellerie est un challenge immense. Et donc c'est bien la logique du fonds que sous l'impulsion de Sébastien Bazin, on a mis en place pour essayer d'accompagner les propriétaires et les partenaires les plus fragiles, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas tenir très longtemps avec des hôtels fermés. Nous avions quand même fin avril 38% seulement de nos hôtels ouverts. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on en a 56% et on espère avoir 70% de nos hôtels à l'échelle mondiale ouverts d'ici début juillet. Mais entre-temps, il faut tenir le choc.
Donc, Accor, pour résumer, vous faites surtout la centrale de réservation, les programmes de fidélité, les marques, le branding, le juridique, le développement à l'international, etc., sans les murs.
Exactement, sans les murs, sans la gestion, l'exploitation de l'immobilier.
Alors venons-en à l'actualité de la semaine, si on peut dire, c'est donc la réouverture en masse ces derniers jours, et notamment demain, lundi 8 juin, de plus de la moitié de vos hôtels en France, un déconfinement indispensable, mais difficile. Les hôtels réouvrent, mais ça reste très challenging, si on peut dire.
Nous avons en effet 900 hôtels ouvert sur près de 1600 hôtels présents en France dans le réseau Accor, près de 56% de nos hôtels ouverts dans le monde déjà. Mais nous avons un enjeu qui est immense, c'est non seulement donner envie aux gens de revenir dans nos hôtels, mais c'est aussi leur donner confiance. Parce que le monde de l'hôtellerie ne sera plus le même après le Covid. Les gens ont toujours envie.
Vous êtes sûr de ça ?
De loisirs. En tout cas, je n'ai pas de certitude, mais j'ai quelques intuitions. Je pense que les attentes vont changer. Les gens vont a priori consommer de manière plus domestique et plus locale, et les gens auront des attentes beaucoup plus fortes en termes de réassurance sanitaire. Donc oui, il me semble qu'au-delà de l'enjeu d'envie, d'attractivité, il y a un enjeu de confiance qui est extrêmement présent.
Alors la réassurance.
Et c'est bien dans ce sens qu'on a mis en place des dispositifs sanitaires.
La réassurance sanitaire, justement, ce sera quoi ? Comment ça va marcher ?
La dispositif sanitaire, pour nous, c'est trois choses. De manière très concrète, c'est le label qu'on a lancé qui s'appelle All Safe, avec des standards extrêmement exigeants validés par le Bureau Veritas, qui est un leader en matière d'hygiène et de propreté. Nos hôtels vont observer très strictement ces lignes directrices et recevoir un label. Les audits de certification sont déjà en cours. Et ces nouveaux protocoles sanitaires vont toucher aussi bien l'accueil que le nettoyage des chambres, le processus de désinfection des espaces communs ou encore la distanciation sociale dans les lieux communs. Le deuxième levier, c'est le partenariat qu'on vient de lancer avec AXA, qui va permettre à tous les gens qui séjournent dans nos hôtels de disposer, à travers ce partenariat, de télémédecine et d'un accès gratuit à des téléconsultations médicales en temps de besoin. Et puis, ce n'est pas le dernier point, le digital sert aussi à réduire les points de contact sans valeur ajoutée lors du séjour de l'hôtel. Et donc, nous allons plus que jamais pousser tout ce qui est check-in en ligne, check-out en ligne, clé digitale, système de paiement sécurisé en ligne, pour vraiment se concentrer sur un séjour créateur d'émotions, d'expériences, de valeurs, de sérénité, et le plus digital possible à chaque fois qu'il y a une interaction qui pourra mettre nos clients en exposition.
Dans le dossier sur du journal Le Monde ce week-end sur l'hôtellerie, il est écrit que les consommateurs vont découvrir des chambres nouvelles, sans superflu, la déco va un peu disparaître, les traversins, les oreillers de secours aussi, plus de bloc-notes ou de stylos, etc. C'est une chambre un peu nouvelle qu'on va avoir dans les hôtels ?
C'est tout le challenge en fait. L'hospitalité, c'est quand même l'émotion et l'expérience. Et nous, notre mission, c'est de continuer à garder la raison d'être de l'hôtellerie, qui est l'accueil et le fait qu'il y a une émotion qui se passe dans nos hôtels, tout en étant exemplaire en termes de réassurance sanitaire. La sécurité sanitaire de nos clients et de nos collaborateurs va être notre priorité absolue.
Peut-être aussi des clients qui vont pas vouloir qu'on nettoie leur chambre tous les jours, ils préféreront rester dans leur chambre telle qu'elle est, au moins pendant quelques temps.
Par exemple, et puis ça va être aussi, en effet, repenser la décoration, limiter les points de contact et finalement apporter du divertissement et du soin auprès de nos clients d'une autre manière. C'est aussi l'occasion de se réinventer et je me dis que de toute crise, on peut aussi apprendre quelque chose.
Une politique commerciale aussi assouplie pendant cette période pour essayer de favoriser les réservations ?
Oui, absolument. C'était la moindre des choses. Pour tout ce qui était tarif flexible, on a engagé une politique d'annulation complète et sans aucun frais jusqu'au jour de l'arrivée. Et puis pour les tarifs non flexibles, pareil, possibilité de bénéficier de l'annulation jusqu'à 3 jours avant l'arrivée. Et après, jusqu'au jour J, possibilité de reporter la réservation ou d'avoir l'équivalent du montant du séjour en bon d'achat. C'était évident pour nous qu'il fallait s'adapter pour répondre à ce cas de force majeure.
Politique de remboursement aussi, même pour les réservations qui étaient non remboursables pendant la période de confinement. Alors, on a un peu testé, on a regardé ici ou là. Parfois, il faut un petit peu se battre, mais vous avez fixé des règles. Comment ça se passe ?
Oui, comme je vous le disais, en tarif flexible, c'est annulation complète et sans frais jusqu'au jour de votre arrivée.
Non, mais là, je parle d'avant, des gens qui avaient des réservations, je dirais, pour la fin mars ou début avril.
Ah mais pareil, dans le contexte du Covid, nous avons décidé d'assouplir notre politique de remboursement et d'avoir un remboursement et une annulation complète.
Même pour l'international, pour tous les hôtels ?
Absolument.
Bon, en tout cas, si vous avez des problèmes, je vous donne le numéro de notre invité, Maud Bailly, 06 32, etc. Non, je vous propose, je vais pas donner votre portable, mais s'il y a des problèmes, vous pouvez toujours nous le signaler. Autre question, la fidélité, ça passe par un programme de fidélité aussi revu, le fameux programme ALL A2L.
Oui, ALL, c'est l'acronyme pour Accord Live Limitless, qui avait été lancé en fait à la fin de l'année dernière, fin 2019, et dont les nouveaux statuts ont débuté cette année. La philosophie de ALL, c'est de mettre en place un programme qui en fait valorise le plus possible l'écosystème qui a été construit autour d'Accor sous l'impulsion de Sébastien Bazin, c'est-à-dire l'idée que les hôtels, c'est pas juste des endroits où vous séjournez loin de chez vous pour y passer la nuit. Les hôtels, ce sont des lieux de vie. Et donc, vous allez pouvoir profiter d'une très grande diversité de marques. Vous allez pouvoir y séjourner pour le loisir ou pour des raisons professionnelles. Et vous allez aussi pouvoir utiliser vos points de fidélité pour des services du quotidien, pour passer 2 heures en coworking chez nous, inviter votre maman pour la fête des mères aujourd'hui.
Voilà, ça tombe bien.
Un brunch
au
Royal Monceau.
Il faut le faire vite, avant minuit.
Voilà, vous avez jusqu'à ce soir, Frédéric.
Le brunch ce soir, ça va être difficile.
Mais... Oui, un dîner, Frédéric. Assister à un cours de yoga après l'émission pour vous détendre.
Voilà, ce sera utile encore, après notre entretien.
Ou encore assister à un concert en VIP d'Elton John. C'est un peu la philosophie de ce qui avait été fait avec l'Accor Hotel Arena, mais étendu de manière beaucoup plus globale avec tous les partenariats que vous avez pu voir autour du PSG, d'IMG, MG autour de la restauration et d'AEG, c'est-à-dire des festivals de musique et de
tourneurs, concerts. Ouais. Maude Bailly est le CTO responsable du groupe Accor, à la fois pour l'achat, le marketing, la communication, le digital. En résumé, et entre nous, là on est entre nous, on parle comme ça un peu en off, quelles sont vos prévisions et perspectives? On retrouve une vie normale en termes de transport, d'avion et d'hôtel à l'automne, à l'hiver, début 2021 ou en 2023?
Moi, je suis assez prudente. Hein. Je suis enthousiaste par rapport à mon secteur, mais quand même prudente sur le temps qu'il faudra, le temps requis pour retrouver les nouveaux économiques et le niveau économique de 2019. Nous tablons sur une reprise pleine des niveaux que nous avions observés en 2019, pas avant fin 2021, voire 2022. Pourquoi? Parce que nous avions une industrie extrêmement florissante. Il faut savoir que sur les 25 dernières années, l'hôtellerie, c'est 5% d'augmentation d'offres par an, de demandes par an, pardon, et seulement 2% au niveau de l'offre. Donc ça a toujours été un secteur extrêmement dynamique. Vous avez vu les prévisions de reprise des compagnies aériennes. Elles nous portent souvent jusqu'à 2023, voire 2024. Je pense que raisonnablement, nous allons trouver un plein régime en 2022. Et d'ici là, on ne retrouverait pas une hôtellerie exactement identique. Comme je vous le disais, je pense que l'hôtellerie qui va reprendre en premier sera une hôtellerie locale, domestique, avec une clientèle plutôt jeune, sans enfants, sur des secteurs économiques et moyens de gamme. Je pense que l'hôtellerie de luxe internationale pour le voyage d'affaires repartira en dernier. Et avec cette attente de réassurance sanitaire très forte. Après, en attendant, nous avons déjà des hôtels qui sont ouverts, notamment en France. Et donc, je vous encourage à venir sur la terrasse du Pullman Paris Tour Eiffel, vous n'êtes pas loin, ou dans le patio du Mercure Paris Batignolles. Ces hôtels sont ouverts. Et avec toutes les précautions sanitaires requises pour nos clients, on sera ravis de vous retrouver.
On vous a invité justement pour ça, pour aider un peu une entreprise française du CAC 40, entreprise française qui représente aussi le soft power français, puisqu'elle est présente partout dans le monde. Les hôtels Accor, je l'ai dit, c'est beaucoup de marques, Ibis, Formule 1, Novotel, Mercure, Le Mondrian, Sofitel, Fairmont, etc. Une clientèle d'affaires assez massivement?
Oui, la clientèle d'affaires a longtemps représenté 70% de notre clientèle.
Alors, c'est celle qui est la première touchée, justement.
Absolument. Alors après, avec la diversification de notre écosystème et puis l'acquisition de nouvelles marques, on observe de plus en plus une montée en puissance d'une clientèle de loisirs. Donc ça rééquilibre un peu les choses. Mais c'est sûr qu'on a un enjeu d'autant plus grand que traditionnellement, nous avions une grande clientèle d'affaires.
Alors, il y a des difficultés à l'international, il y en a en province, mais les choses vont mieux avec un taux d'occupation des chambres qui augmente pas à pas. Reste le problème de Paris, où là, on est, selon l'article du Monde, la une du Monde de ce week-end sur l'hôtellerie, 7% à peu près des hôtels sont... Enfin, 7% de l'occupation, du taux d'occupation des hôtels est en place aujourd'hui à Paris. Donc, problème parisien.
Oui, raison de plus pour jouer sur la dimension de l'hôtel comme lieu de vie. Raison de plus pour insister sur le fait que dans un hôtel, on ne vient pas que dormir, mais on peut faire du coworking, prendre un repas dans des conditions sanitaires complètement sécurisées, avoir des activités qui permettent aux hôtels de garder une activité suffisante pour tenir le cap de cette crise.
Alors, dernière partie de cet entretien, parlons maintenant d'un secteur que vous dirigez également à la tête du groupe Accor, c'est tout ce qu'on pourrait appeler le nouvel écosystème Internet, numérique, la transformation des hôtels. Est-ce que les données sont désormais au cœur du modèle et de la stratégie de Accor, et quelle est cette nouvelle dimension numérique?
Moi, ma conviction profonde, c'est que les données, c'est l'or blanc de l'ère digitale. Et qu'on doit être absolument exemplaire en termes de protection des données. Moi, je suis plutôt une fan du RGPD, ça va en faire hurler plus d'un, mais je crois beaucoup au pari d'une entreprise responsable. Je crois qu'il y a un enjeu de conscience citoyenne autour de l'utilisation des données. On voit bien qu'aujourd'hui, les acteurs de la donnée se multiplient à l'ère du digital, et on voit bien l'enjeu autour de la donnée. Et donc, je crois que nos clients choisiront des entreprises responsables. Maintenant, il y a un enjeu de prise de conscience de nos clients autour des utilisations qui sont faites de leurs données. Et évidemment, la donnée est clé pour nous, puisque notre métier, c'est l'accueil. Et donc, plus nous avons la possibilité de collecter des données sur nos clients, plus nous pouvons personnaliser leur expérience et leur séjour dans nos hôtels. Et c'est bien toute la philosophie de Hall également, des attentions sur mesure en fonction des préférences de nos clients, mais de manière totalement responsable et respectueuse de leur vie privée.
Quelle est votre stratégie vis-à-vis de deux grands acteurs de ce secteur? D'une part pour la réservation des sites comme Expedia et Kayak, et d'autre part, site concurrent, le modèle Airbnb.
Ah, c'est des choses assez différentes. Par rapport à Expedia, c'est une plateforme de réservation qui est un intermédiaire du digital comme tant d'autres. C'est un partenaire. Je crois qu'ils ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux, puisqu'ils ont accès à notre inventaire. Maintenant, plus on est grand, plus le rapport de force s'équilibre. Et donc, comme nous sommes passés aujourd'hui à plus de 40 marques et plus de 5000 hôtels, voilà, c'est une relation de partenariat commercial qui me semble équilibrée. Mais je ne vous cache pas que nous faisons tout aussi pour pousser un programme de fidélité dont les bénéfices encouragent nos clients à venir toujours plus sur notre site web, notre application mobile en direct.
Ça veut dire que si on vient sur le site Accor ou sur votre application, on a les mêmes tarifs garantis que si on passe par Kayak, Expedia ou d'autres sites?
C'est plus que ça, Frédéric. Nous avons, dans le cadre du programme Hall lancé en début d'année, l'engagement du meilleur tarif. Et c'est un engagement absolu vis-à-vis de nos clients que le site et l'application mobile Accor et Hall proposent le meilleur tarif. Et si vous retrouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons à hauteur de 25%.
Alors sur Airbnb, vous êtes en train de leur faire la peau?
Alors déjà, c'est pas l'idée. Je crois que tout l'hôtellerie est en train de souffrir et en ce moment, on est plutôt dans une logique de solidarité et de compassion. Vous savez, je crois beaucoup au darwinisme économique, c'est-à-dire que quand un secteur est choqué par un nouvel acteur, il peut en ressortir du bon. Airbnb, au fond, nous aura obligés à repenser notre manière d'apporter de l'hôtellerie. Ils nous auront obligés à repenser de l'hospitalité avec des nouveaux concepts, d'autres modèles de chambres, d'autres modèles d'expérience.
Mais comme vous le savez,
ça, il faut le reconnaître.
Mais comme vous le savez, le darwinisme, celui qui survit, c'est pas le plus gros, c'est celui qui change, qui se transforme.
C'est le plus agile, exactement. Et donc là, l'idée en termes de résilience, c'est une survie pour ceux qui ont su à la fois tenir le choc, mais aussi anticiper les nouvelles attentes des clients. Et c'est pour ça que je parle à la fois des normes sanitaires, qui à mon sens seront essentielles, de l'enjeu d'envie, de l'enjeu de confiance, et de l'enjeu quand même d'expérience et d'émotion qui sera là. Et puis de sens aussi. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que les clients viendront aussi acheter dans des entreprises qui ont reçu se mobiliser, se démarquer pendant la gestion de la crise. Quant à Airbnb, je pense qu'ils ont un enjeu, comme nous, très fort de réassurance en matière sanitaire. Et nous avons la chance de pouvoir bénéficier à l'échelle d'un label de normes, de standards que nous pouvons appliquer pour l'ensemble de nos hôtels. Et je pense que le défi est particulièrement lourd pour eux.
Un dernier mot très rapidement. Quels sont finalement vos enseignements du confinement et de l'épidémie? Est-ce que ça vous aide à repenser votre modèle et les premières conclusions que vous en tirez sur le futur du groupe Accor?
Moi, j'ai été assez épatée et touchée par la capacité de nos équipes à se mobiliser. Tout le monde a basculé très vite en télétravail, mais surtout, on a eu des initiatives locales en termes de solidarité partout dans le monde qui ont conforté, au fond, notre raison d'être, que ce soit en termes de personnel soignant, d'accueil des populations fragiles, d'initiatives dans tous nos hôtels. J'ai été assez bouleversée par ça. Et donc, je pense qu'en termes de résilience, les entreprises et les communautés sont toujours plus fortes que ce qu'on pense. Après, mon autre enseignement, c'est que nous aurons d'autres chocs à venir. Et donc, nous devons, au plus haut niveau, travailler cette agilité des entreprises. Nous devons nous aider, y compris en termes de management, à savoir, au niveau de l'ensemble de nos leaders, anticiper toujours plus de complexité et toujours plus d'incertitude. Je crois que nous rentrons dans une phase d'incertitude.
Merci infiniment, Maud Bailly. Vous êtes l'une des directrices du groupe Accor. Accor, c'est un groupe français, groupe du CAC 40. C'est aussi le soft power français, je le disais. Et à ce titre, on était heureux, en cette période difficile, de vous aider en vous donnant la parole. Merci infiniment.
Merci à vous.
À vous. On en reste là pour ce soir. Merci à nos invités, nos chroniqueurs, Manuel Paquet, Zouesfez, Sébastien Delot, Marc Diwan et donc Maud Bailly. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne. On se retrouve dimanche prochain pour Soft Power et toute la nuit, si vous voulez, pour réécouter Harry Potter. Bonne fin de week-end, prenez soin de vous.